Salut Morgane.
Re-bonjour Émeric.
Comment vas-tu depuis tout à l'heure?
Chamboulé. On est passé par toutes les émotions,
Je
je crois.
sais pas si c'est un rêve que je viens de faire ou pas. J'ai rêvé que Koulibaly mettait un doublé et que Kouateng nous mettait une lucarne du gauche. Est-ce que ça s'est passé ou pas ça?
Mais en fait, ce qui est génial, ce qu'on va avouer aux gens qui commencent déjà à nous écouter, c'est que juste avant que Koulibaly marque, on était au téléphone ensemble et tu... Excuse-moi, mais t'en sensais pas Koulibaly,
Oui,
voilà.
tu peux le dire, j'étais en train de le pourrir.
Écoute, je vais t'acheter un poster du gars. Je vais t'acheter un poster du gars.
Coulis magie.
Coulis magie, ouais. Coulis magie et vos idées ont du génie.
J'adore.
Ah putain, incroyable. Non, mais c'est un truc de dingue ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, on va démarrer ce débrief hein, parce qu'il commence à y avoir du monde. Blasinho arrive dans 10 minutes. Il y en aura d'autres qui vont arriver aussi dans quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui étaient au stade parmi vous, les gars?
Non,
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 non, non, pas moi.
non? Bon, on aura le retour du coup de Blasinho qui était dans la tribune Loire. Et apparemment, il m'a dit ce qui était génial, c'est que même à 2-0, enfin à 0-2 du coup, la tribune Loire, la brigade Loire n'a pas lâché, a continué de soutenir tout le monde et tout. Et c'est ce qui a peut-être aidé aussi à ce retournement de situation. On réaccueille du coup Alter, supporter bordelais. On va te donner la parole de suite parce qu'au final, ben, tu avais vu juste dans ton équipe, ça démarre très fort et puis derrière, c'est une
Ah, mais
catastrophe,
c'est
quoi.
ça,
C'est
hein.
vraiment.
Je vous entends parler, là, ça a l'air de vous surprendre, mais je ne suis pas surpris d'un poil, hein. Mais en fait, c'est incroyable quand même de mener 2-0 dans un match pareil et en fait de serrer le cul quoi, pendant tout le reste du match. Je veux dire, à 20 minutes, on menait 2-0, mais je savais pertinemment qu'il allait au moins y avoir un but et je savais qu'à tout moment, ça pouvait craquer, quoi.
Ouais.
Déjà ça,
Tu
parce que.
quand vous gagnez 2-0, tu te dis quoi dans ta tête? Surtout que vous menez 2-0 assez vite. Le premier but, il est la cinquième. Là, tu te dis quoi à 2-0? Tu te dis, bon, les gars, allez, maintenant, il faut faire attention. Ou tu te dis, de toute façon, ça sert à rien, on va en prendre 5 derrière.
Je me dis, c'est inespéré en fait, t'arrives à mener 2-0. Je sais pas ce qui arrive à vos joueurs en début de match, si c'était des fantômes. Et c'est pour une fois que c'est pas nous, tu vois, c'est quand même c'est une opportunité, tu vois, que tu es obligé de saisir. Là, tu cherches absolument à avoir des points, tu peux pas te permettre de. C'est pas possible en fait de craquer comme ça systématiquement. Même une équipe de
Ouais.
district, ça a plus de mental, c'est pas possible. Et en plus, le pire, honnêtement, c'est que je saurais même pas désigner un coupable à ça. Je parle des joueurs.
Ouais. C'est pour toi, c'est un collectif, c'est un groupe.
C'est un groupe, il y a aussi eu des mauvais choix du coach. Niang, dans un match où t'as un joueur comme ça qui a un jeu en pivot qui est hyper intéressant, il peut te permettre de gratter des secondes. Tu le sors pour faire rentrer. D'ailleurs, je sais même plus qui c'est qui l'a fait rentrer. Je crois que
Jimmy
c'est.
Briand, je pense, non,
Non,
c'était.
c'était Adli, je crois.
Ah,
Adli,
c'est Adli, ouais, à la place
Adli,
de.
franchement, j'ai vraiment une période. D'ailleurs, je surkiffe toujours ce joueur. Franchement, c'est un mec qui est hyper intéressant. Il a l'air d'avoir une bonne mentalité en dehors du terrain. Mais là, il a déjà la tête à Milan. Il a le syndrome du Parisien qui joue dans un club de province. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, ça allait, mais ce mec, dès qu'il a la balle, il veut jamais la lâcher. Il y a toujours quatre ou cinq touches de balle en trop. C'est énorme. Il ralentit le jeu. Donc, tu fais rentrer Adli à la place de Niang. Je trouve ça incompréhensible. Je comprends pas pourquoi tu fais ça.
C'est Kumara, ouais, du coup, qui a pris la place de Niang, mais c'était en même temps,
C'est
Adli
ça.
rentré en même
Et
temps.
aussi, il y a un autre joueur dont on parle. J'ai l'impression que les supporters bordelais en parlent pas beaucoup, mais qui, je trouve, fait une super saison. C'est un des rares, c'est Junior Onana au milieu. Ce mec, il est vraiment super bon physiquement, il est là, et c'est un mec qui a du mental. Et on a vu, dès qu'il est sorti, c'était une catastrophe.
Ouais, c'est vrai que ça s'est un peu effondré. Ouais. Bastien, toi, du coup, qu'est-ce que tu t'es dit à 2-0? Est-ce que tu pensais qu'on avait le mental, nous, pour réagir? Parce qu'on sait, en fait, avant ce match, on sait que Bordeaux a une capacité à se foutre le feu et à perdre complètement les pédales dans un match où ils sont bien. Mais nous, par contre, ce n'est pas forcément le cas où on est capable de remonter aussi bien.
Mais très honnêtement, j'y croyais pas. Franchement, même avant le match, j'en parlais un peu avec des potes. Là, je les voyais même perdre Nantes. Donc, quand j'ai vu le 2-0, j'étais en train de leur dire justement, mais voilà, vous voyez, je vous l'avais dit. Mais par contre, c'est vrai, comme tu dis, quand on regarde le match de Bordeaux contre Saint-Etienne, je crois que c'était le mercredi dernier, où justement, ils menaient 2-0 et au final, ils se sont fait revenir. Donc, finalement, avec du recul, bah, c'est vrai que c'est peut-être pas si étonnant que ça, comme l'a dit l'interlocuteur juste avant. Donc voilà, mais ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai peut-être pas été bon supporter. Mais sinon, ouais, je suis super content pour Khalifa Koulibaly quand même. parce qu'il est très 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 critiqué. Malgré quand même, faut le dire, hein, le fait qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison le jour où malheureusement Salah nous a quitté. La deuxième partie de saison qu'il avait fait, il avait mis 7 buts, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, il montre quand même qu'il est encore présent malgré son gros salaire et les critiques.
Ouais. Mathis, toi, t'es d'accord avec ça? Tu nous voyais aussi perdre dans ce match quand on avait mené 2-0?
Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose de positif à retenir de la première période. Ça a été très très compliqué et très surprenant parce que moi, du coup, à l'inverse de Bastien, j'imaginais plutôt Nantes prendre l'ascendant plus rapidement sur ce match-là. Mais bon, du coup, à la pause, j'ai repensé à ce que Helter avait dit dans le space d'avant-match, à savoir que voilà, cette équipe de Bordeaux pouvait complètement se saborder, même après avoir pris un avantage en début de match. Il y a aussi la parade d'Alban Lafont, je crois que les commentateurs en ont parlé à la fin du match, mais qui peut-être être un tournant, parce que c'est vrai que ça peut, ouais, on peut considérer que c'est ça qui permet aux Nantais de sonner la révolte en fin de première période. Et c'est vrai que après, à la pause, je me dis, je pense aussi au match de Nantes, de Lens, pardon, contre Lens au mois de décembre. Donc on se dit, si Nantes arrive à revenir et à faire quelque chose sur ce match-là, ça peut être un vrai tournant et ça peut être enfin un déclic après les quelques matchs un peu moins aboutis qu'il y a eu ces derniers temps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais c'est sûr que je voyais pas un tel scénario à la pause.
Alors je vais donner la parole à Morgan, mais juste avant, je vais vous dire, j'ai envoyé un message à Morgan. Je lui ai dit, je pense que Comboiré va leur mettre une petite carotte aux joueurs, dans le sens où je me suis dit peut-être qu'il va leur dire, je vais remettre le même 11 de départ pour la deuxième mi-temps. Et les gars, ceux qui ont envie de terminer la saison et ceux qui ont potentiellement envie de jouer la finale de la Coupe de France, j'allais dire la finale de la Ligue des Champions, je m'y vois déjà un peu trop, mais voilà, ceux qui ont envie de jouer la finale de la Coupe de France, les gars, vous avez intérêt à montrer que dans cette deuxième mi-temps, vous êtes là, quoi. Et on voit une entame de match, mais qui est complètement différente de la première mi-temps, qui est catastrophique, qui est presque grotesque, j'ai envie de dire. Alors, Ludovic Blas a l'air de dire à la fin, non, non, il nous a parlé très calmement. Je pense plutôt que c'est un effet de com. Ludovic Blas, il va pas dire, oui, on s'est fait engueuler, on s'est fait défoncer la gueule, et voilà. Mais je pense que c'est un effet de com et qu'il y a dû avoir de l'orage dans les vestiaires avant d'avoir de l'orage en tribune. T'en penses quoi, Morgan?
En fait, moi, je trouve que ton scénario est totalement plausible. Au moment où tu me dis ça, je dis mais en fait c'est totalement cohérent. En tout cas, enfin c'est totalement le genre de choses que pourrait dire un entraîneur avant dans une situation similaire. Après, est-ce que comme Boiré fait du chantage, est-ce que ça fait partie de sa personnalité de faire du chantage, ce genre de choses? Je sais pas. J'ai pas souvenir qu'il ait déjà fait des choses similaires. Juste pour revenir sur Koulibaly, moi il y a un geste qui m'a plu. Je vais rejoindre Bastien. C'est que sur tous les buts qu'il a marqués, que ce soit contre Angers, que ce soit le doublé ici contre Bordeaux, il n'a jamais célébré ses buts. Je pense qu'il est conscient qu'il ne fait pas... qu'il pense comme nous, que lui-même, il n'est pas ouf, quoi. Voilà, il en est conscient. Mais... Et que du coup, aujourd'hui, il ne peut pas venir se la raconter dès qu'il marque un but, quoi. Et qu'il va falloir qu'il prouve encore. Mais bon... Alors, il se réveille à 3 semaines de la fin de la saison. je ne comprends pas trop. Après, c'est peut-être aussi le fait qu'Antoine Camboiré lui laisse sa chance. La confiance, ça aide hein, pour un attaquant, on le sait. Là, il lui laisse beaucoup sa chance sur les derniers matchs et il marque. Donc, la confiance, elle prend. Et la confiance, pour moi, chez Koulibaly, elle est représentative dans une frappe. C'est le premier but pour le 2-1 là, contre Bordeaux. Il ne contrôle même pas le ballon. Koulibaly, il a mis en retrait. Il laisse coulisser le ballon vers lui, il frappe en première intention et directement il la cadre. Kostic ne peut pas faire grand chose non plus. Je veux dire, ça c'est signe d'un attaquant entre guillemets en confiance et pour le coup, il marque pas de la tête.
Le deuxième de la tête,
ouais, mais le premier,
ah oui, d'accord,
le premier. Première intention, okay. sur ce but là, il marque pas de la tête. Donc, moi j'ai hâte quand même de voir la suite, les derniers matchs, les 4 derniers matchs qui restent. Si Koulibaly est encore titulaire, parce que de toute façon, à mon avis, il va l'être encore un petit peu pour reposer les titulaires, entre guillemets, avant la finale de Coupe de France, et voir un petit peu s'il est capable d'en mettre encore. Moi, je suis étonné, ça va être, entre guillemets, pour moi, personnellement, le joueur à suivre pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Moi, ça va être intéressant.
Ouais. On va saluer Blasinho qui était au stade.
Salut, quelle victoire, quel match.
Bon alors raconte-nous un petit peu, tu m'as dit que la Brigade Loire n'a pas lâché, même à 0-2 du coup. Comment c'était cette ambiance au stade?
Parce que oui, c'est vrai qu'on prend ces deux buts très très vite. Alors bon, ça c'est un peu refroidi la tribune, mais honnêtement, ils n'ont pas arrêté. Pour deux raisons principalement, parce que déjà ils savent qui est l'adversaire, ils savent qu'il y a eu plein de matchs cette saison où ils mènent de plus d'un but d'écart, et bon, on connaît Bordeaux cette saison, on sait qu'ils sont jamais sûrs, même à 3-0, de gagner les matchs. Donc déjà ils rappelaient, on sait, ils sont fébriles en face. Et puis aussi, il y avait aussi le souvenir du match de Lens, parce que je pense que ça a pas mal joué dans les têtes aussi, c'est que même à 2-0, les joueurs et la tribune savaient qu'ils pouvaient revenir. Et on a vu que retour des vestiaires, on a vu une équipe complètement transfigurée, avec une dynamique, une énergie. Voilà, on a l'impression que c'était plus la même équipe. Et honnêtement, voilà, le résultat est incroyable. On avait l'impression d'être dans un film, parce que je ne sais pas si vous avez vu à la télé, voilà, il y avait des orages, il y avait des trombes de pluie, un petit peu comme quand la France a gagné la Coupe du Monde, si vous vous en souvenez. Voilà, il y avait un déluge sur la Beaujoire, des orages, et boum, but de Boukari, et boum, but de Simon, et voilà, bah, ça fait 5-3. Voilà, ils ne se sont pas gênés de chambrer le parquage bordelais qui voulait partir à la 88e, parce que bon, je pense qu'ils en avaient un peu marre, et voilà, c'était assez drôle, un scénario, voilà. Bon, vous pouvez penser que le scénario rêvé c'était qu'on leur mette un 5 ou 6-0. Honnêtement, là c'est limite encore plus jouissif, parce que c'est un scénario complètement dingue, et franchement, voilà, incroyable doublé de Koulibaly, qui l'eut cru, et franchement,
bah, pas nous.
Qui sort sous l'ovation du public, voilà, le standing ovation, les gens se sont levés, c'était un match sur une autre planète, et franchement, incroyable.
Koulibaly, tu lui mets un ballon sur la tête, c'est but, hein. C'est...
Ah oui, franchement, ouais, non, mais même il a eu un ou deux corners où il met des bonnes têtes, voilà.
Ouais, faut vraiment lui mettre sur la tête, oui, face au but,
faut pas trop lui demander.
C'était Colomani, hein, si je me trompe pas, les têtes sur corner.
Ouais, il y en a une de Colomani, ouais, mais je crois qu'il y en a une autre de Koulibaly, mais enfin bref.
D'accord,
voilà.
Ok.
Là,
pour ce match, les tops et les flops, qu'est-ce que tu dirais? Bah, tiens, je vais te laisser la parole, Blasinho, après on tournera. Blasinho, en top et en flop, tu mettrais qui sur ce match?
Alors c'est très compliqué, parce qu'il y a deux mi-temps. De toute façon, il y a deux matchs différents, il y a deux matchs dans le même match, donc c'est compliqué. En flop, Blas sur la première mi-temps. Et voilà, même si je m'appelle Blasinho, j'ai le devoir d'être honnête, et honnêtement, c'est catastrophique. Ça.
Et tu l'as trouvé mieux sur la deuxième mi-temps?
Un peu mieux, parce qu'il a lancé pas mal de fois. Après, il y avait des boulevards, mais il a lancé pas mal de fois les Colomiani, Jebels, Boukari dans la profondeur. Il les a un peu mieux lancés, parce que je sais pas, il y avait de l'espace, il y avait de. Enfin, de toute façon, enfin, la deuxième mi-temps, elle n'avait rien à voir avec la première. Mais donc la première mi-temps de Blas, catastrophique. Après, sinon, je dirais la deuxième mi-temps de Simon, parce que Simon, il a bouffé Kwateng. Je ne sais pas combien de fois il l'a enrhumé. C'était incroyable. Et même Colomiani, même si dans la finition, il a pêché, j'ai trouvé que nos deux ailiers ont mis un bouillon pas possible, alors que sur leur côté, ils étaient incapables de défendre. À chaque fois, ça passait. Et donc voilà, j'aurais dit les deux ailiers qu'on fait énormément de différence. C'est ce qui permet globalement pour moi de mettre 5 buts, parce qu'on faisait tellement de différence sur les côtés. Il y avait tellement de ballons qui se venaient en centre, à ras de terre ou même en l'air. Voilà, ça fait le deuxième but de Koulibaly. C'est un très bon centre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait la différence par les côtés en trouvant tout simplement cette défense bordelaise.
Ouais. Et c'est Elter justement qui disait justement avant le match que pour lui Simon allait manger Kwateng. Alors ça s'est pas vu sur la première mi-temps, mais par contre c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a ressenti la différence. Mathis, pour les tops les flops de ce match-là, tu rejoins l'avis de Blasinho déjà sur les deux mi-temps, je pense, comme tout le monde.
Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Blasinho. Donc deux mi-temps et pardon. Effectivement, demi-temps complètement contrasté. Voilà deux visages de Nantes. Après, pour les tops, bon, du côté du FC Nantes, ils vont être surtout en attaque, parce que c'est vrai que malgré tout, on prend quand même 3 buts, et la prestation défensive, alors à part celle d'Alban Lafont, est quand même pas des plus rassurantes. On va dire, on sait que Nantes peut faire mieux. Donc dans les tops, d'abord, je viens d'en parler, Alban Lafont, il arrête ce penalty-là. Je ne sais pas le combien tième c'est de cette saison, mais c'est absolument incroyable ce qu'arrive à faire ce gardien dans cet exercice-là. Et puis, il nous sauve aussi sur quelques opportunités de potentiel danger bordelais. Donc, voilà pour Alban Lafont. Et puis, sinon, Khalifa Koulibaly, évidemment, Bastien, tu l'as très bien mis en évidence au début du space. Mais c'est un joueur qu'il faut distinguer quand il fait de belles choses, parce qu'il en a besoin. Et c'est vrai que là aussi, nous, c'est un joueur qui nous aura été très, très utile cet après-midi. C'est de bon augure, notamment, Morgan, tu l'évoquais, pour le match contre Lens la semaine prochaine, où il aura sûrement encore un rôle à jouer. Je ne pense pas que maintenant ils doivent chercher à prouver puisqu'il est en fin de contrat cet été. Donc on va se satisfaire de ce qu'il a fait aujourd'hui et puis on va être content de pouvoir encore compter sur lui s'il est en forme sur cette fin de saison. Ça peut toujours être intéressant, ça peut toujours peut-être amener quelque chose. Donc voilà, et puis sinon Moses Simon dans les tops également et puis bah, peut-être dans les flops un Ludovic Blas qui n'a pas été très rassurant ou enfin ouais voilà, après j'ai pas trop, peut-être que le double pivot Moutu Samy et Cyprien a pas mal souffert en première période, donc pas une prestation grandiose, mais voilà, c'est quand même assez dur de dégager, c'est clair, des tops et des flops de ce match, enfin surtout des flops.
Ouais. On va finir le tour de table des supporters nantais pour les tops et les flops. Et après, Alter, je te donnerai la parole aussi pour avoir tes tops et flops de ce match. Bastien, top et flop du coup pour ce match.
Ouais, donc pour moi, donc en effet, Koulibaly, parce qu'il a mis un doublé forcément, et Moses Simon, donc, comme l'a dit Blasinho, dans les percussions, dans la surface, comme il sait toujours faire, c'est un régal. Surtout que j'avais souvenir de Kouateng, justement, qui avait bien à bloquer Moses Simon il y a 3 ans, lors d'un FC Nantes Bordeaux où j'étais à la Beaujoire, et ça m'avait un peu saoulé, car Kouateng, c'était sa première année avec Bordeaux, en tant que formé à Nantes, donc ça faisait un peu chier. Donc c'est cool pour lui. Et aussi Alban Lafont quand même qui sauve un peu le match en arrêtant ce penalty, parce que forcément derrière c'est pas le même scénario à 4-4. Et puis voilà. Après niveau flop, alors je voudrais aussi parler de Blas. Comme je l'ai mis sous ton tweet, Blasinho, justement, où tu mets comme quoi il était un peu inexistant, bah, j'ai expliqué que c'est un peu le profil de Blas, en fait, depuis toujours. Je trouve qu'il est assez absent dans les matchs, mais n'empêche que des fois il arrive à marquer. Donc il y a plein de très bons joueurs comme ça où ils paraissent absents dans nos matchs et que derrière ils peuvent marquer. Donc je suis pas choqué en fait par la prestation de Blas. Je suis pas choqué.
Ok, donc après en top tu mettrais qui, pardon,
Cool trio, Lafond, Simon, Koulibaly. Pour moi, c'est les trois qui font le match. Et puis, on n'a pas parlé, remarque, je vais en parler aussi, Boukari quand même qui a fait une bonne entrée, qui a permis de tuer le match, faut le souligner aussi.
Oui, c'est vrai qu'il fait une bonne rentrée. Mais c'est souvent le cas avec Boukari. Hein. Quand il rentre, il fait souvent, alors pas toujours, hein, mais il fait souvent des bonnes rentrées. Ouais. Ousmane Boukari. Morgan, et puis après, on partira du côté de Bordeaux avec Elter.
Oui, on va se rejoindre. On en a déjà discuté ensemble, Emeric. Ludovic Blas, voilà, Ludovic Blas, c'est mon flop. Même sur l'intégralité du match, moi je lui donne plus d'excuses comme peut le faire Bastien. Ça fait plusieurs matchs où je trouve qu'il n'est pas dedans, il n'apporte pas plus que ça. Pour moi, il se doit de marquer sur ce match. Alors il a failli le faire en première mi-temps sur deux belles occasions, deux beaux ballons, je crois, distribués par Kolomouani. Il manque le cadre de peu, mais face à Bordeaux, tu peux pas manquer ça. Et c'est aussi à cause de ça que on s'est pris deux buts et que les mecs ont pris la confiance au départ. Voilà, il faut pas rater, quoi. Faut pas rater à ce niveau-là. Ludovic Blas, pour moi, il est censé maintenant avoir la prétention de jouer une classe au-dessus. Donc Ludovic Blas, pour moi, il est flop sur ce match. Il faut qu'il se ressaisisse, quoi. Dire, il va falloir qu'il montre plus. Top, juste pour les encouragements. J'ai déjà fait mon monologue sur lui. Koulibaly pour les encouragements. Parce que il marque deux buts et j'ai apprécié qu'il tente en première intention cette frappe qui finalement bah, relance l'équipe quoi. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, moi c'est mon top du match pour le kiff quoi.
Ok.
Voilà tout simplement. Et juste une chose, Emeric, un absent notoire, donc je sais même pas si ça compte dans les top flops. Un absent notoire pour moi c'est Thierry Bella.
Ouais,
Son
on le
absence,
sent.
on a souffert de son absence en première mi-temps, c'était terrible.
Ouais,
Voilà.
c'est vrai, tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai qu'on le voit quand Thierry Vella est pas là, c'est vraiment lui qui a les clés du milieu de terrain à Nantes. Bon, on le savait déjà, mais là on s'en rend encore plus compte quand il y a des absents. J'ai noté quand même qu'en première mi-temps, il y avait enfin j'ai l'impression en fait qu'on joue une mi-temps sur deux là depuis qu'on a quelques absents, notamment Palois, Thierry Vella, comme s'il n'y avait pas une comment dire, comme si les joueurs qui étaient sur le terrain n'avaient pas la capacité de pallier ces absences-là. Donc, faut voilà faire attention si on a des absents contre Nice, voilà, ça peut nous porter préjudice aussi. Pour terminer ce tour de table, après on donnera la parole à Elter pour les top et flops de ce Nantes-Bordeaux, et puis on ira saluer Dynamite Sport aussi qui a demandé la parole, donc on lui donnera juste après. Pour moi, ouais, je vais aussi voilà, je vais aller très vite parce que ça rejoint tout ce que vous avez dit. Je vais juste noter moi dans les tops, je vais mettre Lafond, je vais insister là-dessus parce que même même s'il en prend 3, sur les 3, il ne peut pas grand-chose. Il prend deux bijoux, un de Dilrosen et un de Kwateng. Sur l'autre de Niang, bon, il ne peut pas grand-chose non plus. Donc Lafond, puis je crois que c'est Bastien, si je ne me trompe pas, Bastien ou Mathis, qui a dit sur le 4-3, il nous sort le pénalty. Derrière, on marque le cinquième but et à 4 partout, c'est un tout autre match. Donc Lafond en top. Et après, ouais, en flop, je suis d'accord avec toi, Morgan. Moi, je mettrais Blas parce que je le trouve pas bon, quoi. Je le trouve beaucoup moins bon ces derniers temps. Donc Blas. Pour les encouragements, moi, je mettrais Koulibaly aussi, comme un peu dans les trimestres au collège ou au lycée. Voilà, les encouragements, je les mettrais à Koulibaly. Et je les mettrais aussi à Quentin Merlin, que je ne mettrais pas en top parce qu'il n'a pas non plus été hyper bon, mais il était encore là. Et dans une défense à 4, comme je le disais avant le match, c'est difficile pour lui, je trouve, de s'exprimer. Et je trouve qu'il a fait le taf. Donc voilà, Quentin Merlin, je trouve que même quand l'équipe est un peu en dessous, ben, je trouve qu'il fait le boulot aussi, comme Giroto. Voilà, mais je ne vais pas vous remettre Giroto dans les tops, sinon vous allez
détester. Si, mais il était pas mal. Juste, je n'ai pas dit, mais honnêtement, Giroto, moi, j'ai vu la deuxième mi-temps, il coupe énormément de ballons, et on ne l'a pas dit, mais Giroto, le seul de la défense qui a tenu la barre pour moi.
Ouais. Après, voilà, moi, Giroto, bon, je ne vais pas y revenir dessus, je le dis à tous les spaces. Pour moi, c'est vraiment le patron de cette défense-là. On parle beaucoup de Palois, parce que c'est vrai qu'il est impressionnant, mais Giroto, c'est vraiment un joueur de l'ombre, et je trouve qu'il fait un travail extraordinaire dans cet effectif. Elter, du coup, pour tes top et flop, et après, on ira saluer Dynamite Sport.
Bah alors, niveau flop, du côté de Bordeaux, je pense qu'il y a l'embarras du choix, comme toutes les semaines, comme tous les week-ends. Sinon, franchement, vraiment, le match de Manga, c'est assez affreux. Pas tant sur le compte son camp, enfin, déjà, oui. Mais le mec ne sait pas défendre, on le sait, ça fait depuis un moment. Je l'avais dit même dans l'avant-match, je savais que forcément... Lui, il nous coûte un but quasiment chaque match, même s'il se donne à fond, c'est pas un genre de foot, quoi, je suis désolé. Et sinon, bah, Costil. Je pensais que peut-être qu'il allait avoir un petit peu la rage et tout, de revenir, mais en fait, enfin, je veux dire, la plupart des buts, il peut rien faire, hein, on est d'accord, mais bon, au bout d'un moment aussi, il faut que le gardien soit un petit peu décisif.
Il fait un bel arrêt sur Cyprien en deuxième mi-temps, ouais. Je sais pas si vous avez ce souvenir là.
Oui, ouais.
Il pousse la balle sur le poteau, enfin, moi j'ai trouvé pas mal, après c'est vrai qu'il en prend 5, hein, mais.
Ouais, non, mais après, honnêtement. Et niveau top, j'aurais bien mis Niang, sauf qu'il est sorti pour une raison que j'arrive toujours pas à comprendre assez tôt dans le match. Mais sinon, je vais dire Dilrosun. Ce joueur me surprend vraiment. C'est toujours... enfin, je pense avoir l'explication de pourquoi il se bouge le cul maintenant. C'est parce que quand tu regardes les résultats du Hertha Berlin, c'est-à-dire le club auquel il appartient, il y a danger de relégation. Et il est à Bordeaux aussi, il y a danger de relégation. Donc, je pense que c'est vraiment un joueur qui a le cul entre deux chaises. Ça explique peut-être le fait qu'il se donne à fond maintenant. Il a mis un joli but, même s'il est un petit peu chanceux, parce que je ne sais plus qui c'est qui la touche, c'est Castelletto, non ? Je ne sais plus. Juste avant qu'il allume la
scène. Je crois que c'est Corchia qui dévide la tête. Alors, il me semble que c'est effleuré par Giroto, mais je ne suis pas convaincu qu'elle soit touchée. On a eu le débat avec Morgan, justement. Mais c'est Corchia qui relance de la tête plein axe et Dirolson qui met cette frappe sous la barre. Ouais.
Voilà, bah, donc. Pour moi, c'est le top du match. Et ouais, flop, je vais dire Mangas quand même, parce que Colomoigny, il a dû se faire plaisir. Il doit juste un petit peu dégoûter qu'il n'ait pas eu le but, quoi. Parce que bon, s'il n'avait pas contre son camp, dans tous les cas, Colomoigny l'a mis. Donc, il aurait pu soigner ses stats. Mais voilà, pour moi, c'est ça les tops et les flops.
Ok, ben merci à toi Elter pour ta franchise. On va saluer donc Dynamite Sport qui a demandé la parole. On va lui donner, bien sûr. Salut à toi.
Salut. Merci à vous de m'accueillir sur Backspace. Alors, moi, je suis ni supporter nantais bordelais et le match, je ne l'ai pas suivi, mais je vais me faire un résumé tout à l'heure. Donc, je voulais venir écouter Space pour voir comment ça s'est passé et poser une question pour les supporters nantais et bordelais. Du côté de Bordeaux, notamment, j'ai remarqué que c'est le deuxième match où Bordeaux mène au score puis se fait reprendre. Malheureusement, cette fois, ce n'est pas un match nul, mais une défaite, et une lourde défaite d'ailleurs, qui suit. Comment expliquer, Elder, du coup, avec les supporters de Bordeaux, cette perte, ils menaient 2-0 avant la pause, comment expliquer que ça ait basculé, quoi. Et pour les supporters nantais aussi, après demander les 3 buts qu'ont encaissé Albon Lafond, on sait que c'est un bon gardien, c'est une valeur sûre. Moi, j'ai pas vu personnellement encore les buts, mais comment expliquer ça? Est-ce que c'est la défense centrale, l'absence de Palois, ou c'est vraiment le gardien?
Alors, pour répondre à ta question, pour côté nantais, en tout cas, je pense que déjà, la défense à 4 nous a pas si bien réussi que ça cette saison. Donc, je pense que de trouver les automatismes, c'était un peu compliqué pour nous sur une défense à 4. Je sais plus qui le soulignait tout à l'heure, mais le duo... le duo Cyprien Moutoussamy s'est fait perforer quand même pas mal de fois sur la première période, où encore une fois faut le dire quand même, faut le souligner, Bordeaux a fait une bonne première mi-temps. Nous on a été catastrophique, mais Bordeaux a fait une bonne première mi-temps aussi, c'était assez juste techniquement et donc voilà, il faut le souligner aussi, il faut être fair play sur ça. Après sur les trois buts, très sincèrement, je le disais tout à l'heure, Kouateng met un bijou, voilà, un pied gauche enroulé plein de lucarnes, bon, peut pas faire grand chose. Le but de Dilrosun, c'est pareil, c'est une frappe puissante sous la barre, c'est difficile de le reprocher à la fond. Et puis après, le troisième but, c'est un but de Niang, il y a un marquage un peu oublié dans la surface de réparation. Donc pour moi, en fait, Lafond fait son match, malgré ces trois buts, en fait, où finalement il peut pas grand chose. Après, pour répondre à ta question, alors peut-être redonner ta question, reposer ta question pour Bordeaux, et je vais laisser Elter répondre du coup à ta question.
Ouais. Du coup, Elter, si tu te rappelles la question, tu veux, je la répète.
Ouais, non, c'est bon, je m'en rappelle, et j'ai envie de te dire qu'en fait, c'est vraiment le cœur du problème, quoi, parce que c'est quelque chose qui est pas nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis, on va dire, février 2020, à peu près, un truc comme ça. Ça a commencé après, c'était une défaite, je crois, contre Montpellier, où on avait ouvert le score, et ensuite, on s'était fait remonter lamentablement, on avait perdu 3-1. Et à partir de là, ça a été un enchaînement cataclysmique jusqu'à ce qu'on, miraculeusement, à la fin de la saison, on arrive à se sauver. Mais ouais, c'est vraiment le cœur du problème à Bordeaux, parce que j'aimerais te dire, ouais, il y a une raison et tout, mais en fait, la vérité, c'est que je serais incapable de dire comment se fait-il que des joueurs professionnels soient si faibles mentalement. Je sais qu'il y a un climat qui est pesant à Bordeaux, il y a des problèmes financiers. L'année dernière, il y avait des histoires avec pas mal de joueurs qui étaient en fin de contrat, tout ça. Là, il y a pas mal de joueurs en prêt, mais je comprends pas comment une équipe peut lâcher à ce point et être aussi peu. Parce qu'en fait, c'est ce qui est franchement hyper symptomatique, tu vois. C'est l'action. Si vous regardez Mangas sur le deuxième but quand il met contre son camp, et que vous regardez Mangas sur le deuxième but de Koulibaly quand il marque de la tête là. Ouais. Sur la première action, il veut tellement défendre qu'il finit par marquer contre son camp. Et sur la deuxième action, le mec, il est au duel. Tu vois, Guilavogui qui peut rien faire. Normalement, c'est à Mangas d'aller au duel. C'est à Mangas de jouer de la tête, quoi, pour éviter le but de Koulibaly. Il fait rien, il reste passif. Ces joueurs, en fait, ils sont fébriles. Dès qu'il y a un petit fait de jeu qui est contraire ou quoi, dès qu'il se passe quelque chose pas ouf dans cette équipe, dès qu'il y a un petit fait de jeu qui vient à l'encontre de Bordeaux, les joueurs craquent complètement. Et l'autre symbole, tu vois, c'est sur le pénalty raté de Briand. Ouais, j'étais convaincu. Quand il y a eu le pénalty, je me suis dit, s'il rate, c'est obligé, on va en prendre un autre. Parce que c'est toujours comme ça dans cette équipe. Et je suis désolé, je ne peux vraiment pas répondre à ta question. En tout cas, parce que franchement, j'aimerais pouvoir y répondre. J'aimerais qu'on trouve un coach qui serait capable d'y répondre. Et tu vois, c'est toute la différence en fait avec les Nantais, tu vois. Parce que les Nantais, ils ont un coach qui a sûrement dû pousser une gueulante dans le vestiaire. Du coup, les mecs, ils lâchent pas. Ils sont là, ils sont motivés. Les mecs, ils avaient tout un stade qui était derrière eux. Le stade, il était rempli. Les ultras, ils chantaient et tout. Les mecs ont joué. Ils ont mouillé le maillot à Bordeaux. T'as les stades qui est plein quasiment chaque week-end. Et les mecs, ils sont pas foutus de se donner, quoi.
C'est le syndrome de l'équipe qui joue son maintien. C'est souvent ça. Nous, on avait la même chose l'année dernière. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais le problème,
dès que tu prends un but,
c'est ça. Mais le problème de nous, tu vois, c'est que si tu regardes l'effectif, les joueurs là sont calamiteux. Mais si tu regardes individuellement, t'as pas une équipe de mecs qui sont censés jouer le maintien, en fait. Et c'est ça aussi qui fait que par rapport à des mecs comme à des équipes comme Clermont ou Lorient ou quoi, on a des mecs qui ont pas du tout le mental pour jouer le bas de tableau comme ça.
Je vais j'en profite puisque tu parles de Lorient, j'en profite pour saluer les supporters lorientais qui écoutent le Space et qui m'ont envoyé des messages tout à l'heure pour nous remercier de la victoire contre Bordeaux, même si c'était vraiment pas facile. Ouais. Oui, tu voulais ajouter peut-être quelque chose, Dynamite Sport, et après j'aimerais entendre Blasigno aussi sur la petite théorie que j'énonçais par rapport à la mi-temps. Vas-y, Dynamite Sport. Ouais.
Moi juste dire que je trouve que Nantes est sur une bonne dynamique. Enfin, depuis la qualif perso en finale de Coupe de France, je trouve qu'il y a vraiment une bonne vibe qui sort de cette équipe. Donc déjà, bon courage à vous pour la finale contre Nice. Et après, bon, vu que j'ai pas suivi le match, du coup, je vais rester en tant qu'auditeur. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir fait monter et n'hésitez pas à vous abonner au compte. On fait de l'actu foot, enfin ouais. L'actu foot basé sur le foot français. Donc voilà, n'hésitez pas et je reste en tant qu'auditeur.
Eh bien, écoute, le message est passé. Merci à toi d'écouter le space et merci d'être intervenu et d'avoir posé tes questions. C'était avec plaisir. Salut. Du coup, ouais, Blasinho, je voudrais t'entendre sur la petite théorie. Alors, j'en parlais tout à l'heure, t'étais pas encore arrivé. Je disais, je me suis dit, j'ai envoyé un message à Morgan, je me suis dit, Comboiré va leur mettre une carotte, tu sais, à la mi-temps, leur dire, les gars, je ne change rien par rapport à la première mi-temps. Les 11 mêmes vont rester, le schéma tactique va rester. Par contre, les gars, il reste quelques matchs à jouer en championnat, il reste une finale. Ceux qui ont envie de jouer ces matchs-là, vous avez intérêt à vous bouger le cul parce que sinon, c'est terminé, la fin de la saison, elle est maintenant. Est-ce que tu penses que ça, c'est le genre de discours que peut tenir Comboiré dans les vestiaires?
Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il les a surtout secoués. Enfin, après, voilà, comment il les a secoués, je sais pas, mais je pense qu'il leur a surtout, voilà, comme je t'ai dit, par rapport à ce que disait le capot en tribune, il leur a parlé du match contre Lens. Je pense que dans son discours, il est quand même assez souvent positif, même quand on perd, etc. Il essaie de les, même si, voilà, c'est un gars qui est très franc et qui rentre dedans, mais. Je pense qu'il leur a surtout rentré dedans et il leur a dit que c'était inadmissible. Lui, il les a connus, les derbies chauds des années 80-90, Nantes-Bordeaux, il les a connus, les années Baise, etc. Donc, je pense qu'il leur a dit
Après, je suis d'accord
qu'ils
avec
n'avaient pas
toi
bien
que
compris. Je pense
je
qu'ils
suis
n'avaient pas
d'accord avec
bien
toi sur
compris
ça.
l'enjeu du match, quoi. Je pense qu'il leur a surtout dit ça. Après,
Mais après, ce qu'il faut souligner, c'est quand même, c'est que ok, il y a ne pas rentrer dans un match, mais il y a surtout faire une première mi-temps cataclysmique. On fait une entame de match. Pour moi, c'est la pire entame de match de toute la saison contre Bordeaux là, cet après-midi. Je sais pas ce que tu en penses, Blasio.
Ouais, après, enfin, pour moi, il leur a surtout dit que c'était indigne, tu vois. Enfin, on sait que son discours, il passe toujours. C'est quand même, on dit souvent, tu sais, quand les entraîneurs sont sur la sellette, que le discours passe plus dans le vestiaire. On a quand même l'impression que Camboré, son discours, du moins quand il dit les choses, il est écouté, même il est très apprécié. Je sais plus si je regardais une interview l'autre jour, c'est Colomuani et Lafont qui disaient que c'était le meilleur entraîneur qu'ils aient jamais eu dans leur carrière. Donc ça veut dire quelque chose qu'ils ont beaucoup de reconnaissance et beaucoup de respect pour ce qu'il dit. Et comme disait notre collègue bordelais, c'est vrai qu'il y a une mentalité, il y a aussi la tribune qui a poussé. Hein, jouer à domicile, ça joue toujours. Et on les sent, voilà, c'est une équipe jeune qui aime jouer devant un public qui les pousse. Et je pense que voilà, c'est surtout la mentalité. Et puis ils savent déplacer des montagnes chez eux. À domicile, on l'a vu cette saison, à chaque fois ils se dépassent. Donc voilà, je ne suis pas sûr pour ta théorie. Pour moi, je pense pas. Mais voilà, à domicile, c'est une grande, grande équipe. Et bon, même si le Stade de France ne sera pas à domicile, on espère qu'ils répondront aux attentes.
Ouais,
Écoute, Dimitri. Ouais.
je réponds à une question, enfin, parce que j'ai reçu un message là, de quelqu'un qui nous écoute. Effectivement, Blas a dit que Comboiré avait été très calme dans le vestiaire à la mi-temps. Alors après, juste par rapport à ça, on le sait, hein, il y a des effets de com aussi. Tous les joueurs maintenant, les équipes, les clubs ont des attachés de presse, etc., qui leur demandent de surveiller leurs propos, de faire attention à certaines choses. Je pense que de toute façon, même si Comboiré a poussé une gueulante dans les vestiaires, je pense très sincèrement que le discours était pas de dire ah oui, on s'est fait défoncer la gueule et on avait intérêt à se bouger le cul en deuxième
Et
mi-temps.
puis même, tu peux engueuler quelqu'un sans lui crier dessus. Tu peux lui dire juste
Ouais, bien
qu'ils sont
sûr.
tous nuls, vous êtes tous nuls, voilà, maintenant
Non, voilà.
démerdez-vous, je sais pas. Enfin, il y a plein de manières d'engueuler quelqu'un sans
Bien
forcément
sûr. Après,
l'attraper par le col.
Et c'est là où je te rejoins. Je pense que si Comboiré est un entraîneur aussi respecté par les joueurs, par cet effectif-là, en tout cas, c'est parce qu'aussi il sait dire les choses, il sait amener les choses. Je pense pas qu'il leur a dit, les gars, vous êtes des chèvres. Voilà. Faut tenir compte quand même de la saison qu'on est en train de faire. Il peut pas dire vous êtes nuls parce qu'on rate 45 minutes contre Bordeaux. Je pense juste qu'il a dû leur dire. Là, on est passé à côté, vous le savez. Là, il y a une deuxième mi-temps qui reprend. Vous avez intérêt à vous bouger sur la deuxième mi-temps si vous voulez pas vous faire secouer sur la deuxième, quoi. Morgane, ouais, tu voulais dire quelque chose, ouais, pardon.
Moi, je trouve qu'Emboiré, c'est culotté quand même, parce que on a vécu ensemble, Aymeric, la première mi-temps, et la première chose qu'on s'est dit, mais c'est le dispositif qui ne va pas. Et vraiment, on était persuadés qu'il allait y avoir soit des remplacements, soit des changements en termes de dispositif sur la seconde mi-temps, et il n'y en a pas eu. Ce qui prouve qu'Antoine Camboré, il est quand même la tête dure, et il n'a pas la tête dure pour rien, puisque derrière, encore une fois, ses super subs ont marqué, à savoir Khalifa Koulibaly et Boukari. Ça, c'est quand même ouf. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est Blasinho qui le dit souvent, le dispositif, c'est une chose, mais c'est surtout l'animation qui fait la différence par rapport au dispositif, en fait. Finalement, qu'importe le dispositif, si l'animation est éclatée, comme ça a été le cas en première mi-temps, bah voilà, il se passe de la merde.
Oui.
Je vais donner une statistique avant de. J'aimerais donner la parole, moi, personnellement, Émeric, à Matisse sur le. Parce que j'aurais bien aimé son analyse sur la première mi-temps. Pourquoi justement la dynamique n'a pas été la même en première et en seconde mi-temps. Moi, techniquement, tactiquement, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que lui, qui a tendance à plus analyser les matchs, va pouvoir répondre. Je veux
Ouais.
juste donner une stat concernant, concernant Antoine Comboiré. Il n'est plus qu'à 2 points de battre le record sous l'ère Kita du nombre de points sur une saison avec le FC Nantes. Et on est actuellement à 50 points. Le record, c'est Claudio Ranieri avec 52 points. C'était la saison 2017-2018. Pour ceux qui me parlent de Conceição, qui a fait un bon, qui avait fait 7e, il avait eu 51 points. Donc, juste un point de plus que ce qu'a
Oui,
Camboré cette
après,
saison.
il était
Voilà.
arrivé en cours aussi de saison, quand
Il
c'est
n'avait
ça,
pas tout
donc.
fait. Ouais. Il y avait 3 mois de René Girard derrière, quand même.
Juste
Ouais,
donner,
c'est
et ça
ça.
coûte quand même, ça fait partie
Oui,
du
mais c'est un
jeu.
handicap, ouais, forcément.
Ouais,
Bien sûr, bon, 3 mois
ça
de Domenech
handicap.
derrière Camboiré, il fait pas les 50 points.
Bien sûr, bien sûr. Donc.
Effectivement, on va donner la parole à Mathis pour ce que tu disais, Morgane. Je voudrais juste voilà, revenir sur ce que tu disais par rapport au système de jeu et par rapport du coup à l'animation. Alors, c'est une remarque qui est tout à fait juste. Alors, après, attention quand même aussi, parce que forcément, on ne peut pas avoir une animation en 4-3-3 comme on a une animation en 5-3-2 ou en 5-2-3. Par exemple, moi, je parle souvent de piston. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui devient à la mode depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. C'est un rôle déjà qui est très vieux, hein, qui remonte à il y a pas mal de temps. Déjà, je crois que c'est à l'Euro, si je dis pas de bêtises, l'Euro 2000, 2012, je crois que ça doit être avec l'Italie, ou 2008. En 2008, il me semble que c'était. L'Italie jouait déjà avec des pistons. Et en fait, sur une défense à 4, les pistons, c'est impossible de jouer avec des pistons sur une défense à 4. Pourquoi? Parce que si on demande aux pistons d'amener un apport offensif, ben derrière, ça découvre vachement la défense, sachant qu'ils sont plus que deux derrière. Donc c'est pour ça aussi que, OK pour l'animation, mais derrière, un schéma tactique peut, comment dire, peut faire la différence par rapport à une animation ou pas. Voilà. Mathis, ouais, du coup, par rapport à cette analyse de la première mi-temps, comment tu la juges? C'est tactiquement, c'est techniquement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ouais, je sais pas, c'est assez dur à dire. C'est vrai que tactiquement, je pense que ce qui saute un peu aux yeux, c'est d'abord que Nantes avait eu un bloc très très bas en première mi-temps. Alors, bon, on n'a pas l'habitude de les voir très haut sur les matchs habituellement. On sait que c'est une équipe qui aime bien jouer en transition, mais là, ça a été assez bien neutralisé par Bordeaux. On a vu un bloc très bas qui avait du mal à développer des bons circuits de balle, des bons circuits de sortie de balle, qui avait du mal à développer des bons contres. Donc voilà, un bloc très bas qui était mis sous pression, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait illustrer ça, mais bien mis sous pression par Bordeaux, bien neutralisé, qui ne pouvait pas trouver de circuit efficace. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident à analyser vu l'écart qu'il y a après entre la première et la seconde période. C'est aussi sûrement à mettre, on va dire, si on peut dire ça comme ça, au crédit des défaillances bordelaises et du tout autre visage qu'ils ont montré en seconde mi-temps. Mais en tout cas, ouais, je pense que d'abord, la grande caractéristique du revers nantais en première période, c'est ce bloc très bas qui a été très neutre et très passif, en fait, même s'il y a eu un peu de, même s'il y a eu un peu de mieux sur certaines phases de jeu, certes, mais c'est quand même assez décevant sur l'ensemble de la première période. Et c'est ce qui a été très, très bien corrigé ensuite en seconde mi-temps, puisqu'on a eu un bloc beaucoup plus mobile, beaucoup plus fluide, et qui s'est remis, en fait, à jouer de mieux en mieux en transition, à jouer de mieux en mieux les coups, et à profiter des failles de Bordeaux. C'est ce qu'ils ont. Parce qu'il y a eu aussi un moment, en fait, dans la première période, après que Bordeaux mène 2-0, donc là, les commentateurs le disent eux-mêmes, hein, que Bordeaux, on les voit bien essayer de jouer plus bas pour garder l'avantage. Là, Nantes arrive à faire remonter un peu le bloc, mais ils passent pas, ils vont pas se créer de très très grosses opportunités, ou alors ils vont manquer de réalisme, parce que Bordeaux reste très hermétique, et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal à trouver des failles, en fait, dans ce bloc bordelais, soit quand ils étaient, eux, très bas pour remonter jouer en contre, soit quand ils étaient un peu plus haut pour s'approcher de la surface et se procurer des vraies occasions.
Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ton analyse sur le bloc bas. On a joué bloc bas face à Bordeaux cet après-midi et on s'est retrouvé un peu acculé dans notre camp. Et voilà, encore une fois, Bordeaux a bien joué les coups. Ouais, je vais te donner la parole, Bastien, puis après, je vais poser une question à Elter
Juste
aussi
quand il
par
n'y a pas
rapport à ça.
Chirivella, c'est forcément. Pour moi, l'explication, c'est qu'il n'y avait pas Chirivella et que forcément, quand tu es pressé, nos 2 minutes de terrain n'arrivaient pas à résister sous pression. Et le gelon de Chirivella sur la première mi-temps a énormément manqué. Vas-y, je laisse
Ouais, mais
Sébastien, mais.
après, au milieu de terrain, là, on passe à 3 milieux de terrain sur ce match-là. Mais c'est ce que je disais à Morgan. Moutoussamy, c'est un rôle un peu box-to-box. Donc, c'est un joueur qui se projette beaucoup et qui défend aussi beaucoup. Donc, bon, on ne peut pas dire qu'il ait un profil défensif. Cyprien, c'est plutôt même un profil offensif. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec que des joueurs à vocation un peu plus offensive que défensive. Et du coup, voilà, on s'est fait balader un peu.
Ça manquait de sérénité,
Personne
ouais. Ça manquait de
n'a la
sérénité de
qualité
Chirivella,
pour
ouais,
ce
c'est
déplacement
sûr.
chez Rivella.
Ah non, non, de toute façon, oui, on est d'accord, au
Donc,
milieu de terrain,
c'est vrai que
Chirivella.
Blasinho, j'aime bien. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Blasinho. C'est vrai que je pense que c'est un élément marquant de ce revers.
Bastien, ouais, tu voulais dire quelque chose et après, je poserai une question à Elter aussi par rapport à ça.
Ouais, moi je trouvais que c'était surtout un gros manque d'envie hein, en première période et puis, un manque de sérénité. On voyait qu'ils perdaient le ballon, limite ils n'alignaient pas. Et on va dire pas 3 passes. Ouais, un gros manque de sérénité. Après, ce qui a aidé aussi les Canaries, je pense que c'est d'avoir marqué très tôt en fait en seconde période, ce qui est très bon pour le moral, quoi, forcément. Et met un petit coup de pression au Bordelais. Puis j'ai bien aimé par contre la réaction des joueurs après le but de Kouaté qui redonnait l'avantage au Bordelais, parce qu'ils ont pas lâché comme on aurait pu croire finalement. Mais ouais, c'est voilà.
Ouais. Elter, du coup, par rapport à ce qu'on dit, est-ce que tu as senti aussi que Bordeaux a joué un petit peu plus haut et est venu chercher plus haut que d'habitude, ou c'est enfin ce que vous faites généralement d'aller chercher les équipes très très haut comme ça et derrière vous prenez des buts en contre?
Bah, la dernière fois, tu vois, qu'on est vraiment allé chercher haut et tout, bah, c'était justement mercredi contre Saint-Etienne. On a fait un bon match. Mais tu vois, c'est ce que je disais aussi dans l'avant-match, c'est qu'il y a aussi un problème physique dans cette équipe. Encore aujourd'hui, je sais pas, c'était pas forcément criant, tu vois. Mais dès qu'en fait, on va chercher haut, dès qu'on va presser un petit peu, j'ai l'impression que les mecs sont cramés. En fait, dans l'idée, jouer haut et tout, c'est efficace, on le voit. On a fait une première période qui était quand même vachement sympa. Mais dès qu'en fait, on se met, enfin, disons qu'on est une équipe qui sait pas subir et on est une équipe aussi qui dès qu'on joue haut bah, on voit ce que ça donne, genre il y a des espaces, c'est incroyable. Dès que en fait on pouvait faire un dégagement de quasiment de dans la cage de Costil. Il y avait tout, il y a toujours des espaces, il y a au moins 20 mètres derrière nous, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi, j'ai bien aimé la première mi-temps qu'on a faite, tu vois. Ça, on l'avait fait aussi, si je dis pas de bêtises, c'était contre Metz. Oui, on avait joué comme ça aussi contre Metz, tu vois. Et contre Metz, il nous est arrivé ce qui nous arrivait là en seconde période contre vous, c'est-à-dire qu'on avait eu sur un contre, Metz qui avait tenté. On perdait 1-0, tu vois, et c'est ça que je trouve marrant, c'est que c'est vraiment le scénario inverse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais pourtant, tu vois, dès qu'on joue haut, on peut être une bonne équipe parce qu'on a des joueurs qui peuvent, on a des joueurs, franchement, qui techniquement sont très bons, tu vois. Quand on récupère haut et que tu as des joueurs comme Dylan Rozun, par exemple, là, qui a fait un match plutôt intéressant, voire même très bon, c'est toujours intéressant de jouer comme ça, mais le problème, c'est que les joueurs sont cramés. Il y a un problème physique aussi dans cette équipe.
Un manque de confiance.
Ce qui explique aussi, ouais, déjà, t'as une équipe qui est pas en confiance,
Ouais.
ce qui déjà est quand même vachement problématique quand t'es professionnel, et en plus, t'as des mecs qui sont cramés, trop rapidement.
Ouais. Oui, c'est vrai que ouais, ça a l'air d'être un peu un mélange de tout dans cette équipe de Bordeaux.
Ah oui, non, mais de toute façon, y a rien qui va, c'est à l'image du club, il n'y a absolument rien qui va.
Ouais. Du coup, et nous, prochain match, c'est samedi prochain à Lens. Est-ce que ça peut galvaniser et puis permettre un peu à cette équipe avec cette victoire de repartir un peu vers l'avant et d'entamer une belle série? Alors, c'est le prochain match, c'est Lens. Et après, c'est Nice. Hein, donc est-ce que ça peut permettre de redonner une dynamique intéressante pour cette finale, Morgan?
Oula, 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 moi je m'enflamme pas pour Lens, Lens 7e quand même. Et Lens, déjà, je vous rappelle comment on avait galéré sur le match aller. Et surtout, on a beaucoup d'absents pour Lens. Il y a beaucoup de joueurs qui sont suspendus. Donc, est-ce que justement.
Alors, on va les rappeler d'ailleurs, les joueurs suspendus.
Blas, déjà de tête, je crois. Il y a Giroto aussi.
Ouais, il y a Fabio aussi.
Il y a Fabio, voilà, ça en fait déjà trois.
Alors peut-être que ça va ravir Blasinho et qu'on va enfin voir des jeunes titulaires.
Pereira Dessa, ce sera Pereira Dessa.
Non, il est blessé. Il est blessé, il sera blessé. Il sera blessé. Porte pas la guigne, il sera blessé.
Non, mais franchement, je suis assez pessimiste parce que Lens, ils sont à 54 points. Ils sont derrière Nice, donc ils sont 7e. Hein. Nice est 6e avec 57 points. Ils sont dans la course, hein. Eux ils sont dans la course, hein, parce que Strasbourg est aussi à 57 points. Bon, là il y a 0-0 hein, contre Lille, donc le résultat du match n'est pas encore sorti, mais ils sont dans la course, Lens, donc ils vont pas vouloir perdre des points contre Nantes, hein. Moi je suis assez pessimiste pour le match face à Lens, et puis après, oui, effectivement, il y a la finale de Coupe de France. Je pense que là pour le coup, contre Lens, toutes les têtes seront déjà à Nice, contre Nice, c'est sûr. Je pense que les têtes, c'est en foot, victoire nulle ou défaite. Je pense que là, Camboire, il s'en foutra un peu. Je pense qu'il sera là pour reposer ses joueurs et il mettra ses remplaçants. Il nous mettra des Koulibaly, des trucs, des Boukari, tout ça. Ils ont marqué là, pourquoi pas.
Koulibaly, c'est un joueur fort de notre effectif là. Ça y est, ça devient.
C'est un titulaire. Pourquoi tu dis remplaçant là? J'ai pas compris.
Non, mais écoute, Koulibaly, en vrai, ça peut être un joker intéressant.
Pour cette fin de saison, pourquoi pas, hein. Ouais, bien sûr.
On en parlera au moment du match, avant match face à Nice. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Un profil comme Koulibaly si on est en difficulté contre Nice.
On sait que Blasinho aime bien enregistrer des passages du space pour nous les ressortir, donc ça sera ressorti si jamais
Non, mais il marquera le but de la victoire, voilà. Donc, je pourrais le ressortir, donc voilà, le jour 24 avril, voilà, ouais. C'est le but de 2-1 à 92e au Stade de France, ce sera lui, voilà. prenez note, voilà, ce sera ça.
Par rapport à
Lens, je suis carrément d'accord plus avec la deuxième partie de ce qu'a dit Morgan, les gars. Déjà, on se souvient du match à Metz avant la demi-finale contre Monaco, les mecs étaient clairement la tête ailleurs. Alors si c'est pour une finale au Stade de France devant 80 000 personnes pour le plus grand match de leur carrière pour 98% de l'effectif, je peux vous dire que bon, même si c'est Bollard plein, hein, il y aura une grosse ambiance à Bollard. Voilà, c'est des matchs quand même, quand on est footballeur professionnel, je pense qu'on a envie de les jouer. Mais voilà, il va faire tourner Camboire. Voilà, ce sera un match secondaire. Par rapport aux jeunes, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'on en voit. Peut-être Loan Doucet à la limite, mais franchement, voilà, on n'en verra pas. Mais ce sera un petit match, match d'échauffement, match amical contre Lens. De toute façon, on s'en fout, on est maintenu. Voilà, on sera sur le milieu de tableau. Donc voilà, je suis peut-être très d'accord avec ce qu'a dit Morgan sur la deuxième partie.
Peut-être Achi et Manvelian dans le groupe au moins. Aussi.
Ouais, Bollard, c'est un beau stade, les corons, tout ça, ils pourront, voilà, la Lensoise, ils pourront voir l'ambiance du stade, les sièges sont confortables, ils vont serrer le banc, alors qu'il n'y a rien à jouer, mais bon, on connaît qu'on voit rien. Ouais.
Je pense qu'un bon point, ce serait déjà une demi-victoire, déjà, je pense.
C'est clair, ouais. Mais ouais, ça sera comme à Marseille, ce sera comme à Marseille, voilà, ça va être le même contexte. Une équipe qui joue sa vie contre nous, qui, bon, ça va un peu en vacances.
Un bon 0-0 des familles.
Ouais, contre Lens, je suis pas sûr qu'on voit un 0-0 parce que Lens c'est une équipe qui joue quand même bien au ballon et,
oui, mais
et...
je signe pour un 0-0, c'est ça que je veux
dire. Ah, tu signes, ah, oui, bien sûr. Alors là, oui, je suis comme toi. Alors, je dis une bêtise d'ailleurs par rapport à Manvelian, parce qu'il y a Formation Nantes qui nous écoute et qui me dit que Manvelian est blessé pour la semaine pro. Donc, déjà, voilà, apparemment, il ne sera pas dans le groupe, Manvelian. Ça, c'est déjà réglé. Bon, peut-être Mohamed Achi, ça serait bien de voir ce genre de joueur-là au moins pointer le bout de leur nez à l'image de Quentin Merlin en début de saison.
Je pense pas qu'on boirait. On le sait, il fait pas trop confiance aux jeunes, malheureusement.
Ouais, après là, le problème c'est que là il aura pas vraiment le choix parce que donc comme on l'a dit, il y a pas mal d'absents contre Lens. Donc au bout d'un moment, alors Thierry Vella, à voir comment ça évolue, Palois également, ouais. Mais ça pourrait faire potentiellement 5 absents pour le FC Nantes le samedi prochain. Donc à voir.
Il aime bien reclasser des joueurs à différents postes du groupe pro, hein, souvent. Après, on verra, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va, il va tout faire pour laisser une équipe des joueurs actuels, on va dire.
Oui, c'est possible aussi. Après, ouais, il est plus adepte de ça. Ouais, ouais Morgane, vas-y.
On pourra lancer, s'il te plaît, pour la blague, avant la finale, le débat des camps au but ou pas pour savoir s'il sera dans les buts pour la finale face à Nice. J'ai envie de lancer ce débat.
Félicité par toute la tribune, Alban Lafont, là. Juste pour voilà, petite histoire de tribune, voilà, il n'est pas venu parler avec le capot, etc. Il a été félicité pour sa saison et même sa prestation du jour. Et voilà, le capot leur a dit, on est fiers de vous, les gars, bravo, vous avez fait un super match. Et notamment Alban Lafont, super. Voilà.
Faudra voir les statistiques, Blasinho, voir les statistiques. Mais on n'est pas à l'abri que ça soit le meilleur arrêteur de pénalty d'Europe cette saison. Hein.
Il n'en sera pas loin du tout. Il n'en sera pas loin. Ouais. Et surtout si on gagne au péno contre Nice, autre possibilité.
Jimmy Briand, il nous a bien aidé sur ce coup-là.
Merci Jimmy.
Ouais, en vrai, je pense, après avoir revu le pénalty, je pense vraiment que même si Lafont part de l'autre côté, je pense qu'il a moyen de l'arrêter parce que le pénalty et vraiment pas bien tiré non plus quoi. Donc bon, à voir. Ouais, je viens de lire un tweet là d'un supporter bordelais, puisque Elter, je pense que ça t'aura pas échappé, on a nous aussi supporters nantais quelques problèmes avec notre direction. Je vois un tweet passer: Gérard Lopez a fini de tuer le club. Est-ce que toi, c'est ta sensation aussi? Est-ce que pour les supporters bordelais, la direction est la cause principale de tout ce qui ne va pas à Bordeaux cette saison?
La direction est la cause principale. Lopez, et en fait, c'est juste la continuité, quoi. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est comme ça depuis un moment, en fait.
Ouais. Ça
s'est barré en couille depuis, on va dire, depuis que M6 s'est barré, en fait.
Ouais, donc c'est
un long chemin de croix. C'est un long chemin de croix en fait, mais je veux dire, on finit en Ligue 2, tu vois, c'est la suite logique des événements en fait.
Et peut-être pire. Attends, parce que bon, on m'a dit ça. Bordeaux, pas sûr de voilà passer la.
Non, mais tu vois, c'est ça en plus, parce que moi, je pense que parler de Ligue 2 l'année prochaine, déjà, c'est être un petit peu optimiste, parce que est-ce que la DNCG va nous laisser passer ou pas? Ouais. Moi, j'ai personnellement des inquiétudes. J'ai des inquiétudes là-dessus. Moi, ce que je reproche surtout à Lopez, en fait, c'est que ce mec, c'est vraiment un très beau parleur. En fait, il aurait fait un super politicien, tu vois. Quand il arrive en début de saison, tu te dis, ouais, l'année prochaine, on joue l'Europa League. Enfin, ouais. Garçon, à un moment, faut arrêter de
dire, faut essayer. Il a fait le coup à Lille aussi. Hein. Lille, il avait fait le coup aussi.
De... Bah mais à Lille, il a réussi.
Enfin, à Lille, il a réussi. Il a réussi, oui et non, parce qu'il n'était pas tout seul, déjà d'une. Et de deux, voilà, il y a Christophe Galtier qui était en place et on sait toutes les qualités de Christophe Galtier aussi.
Surtout Campos. Je pense que
c'est voilà, Campos, et c'est surtout Campos.
Il a fait un recrutement de malade. Ah bah,
voilà. À l'époque, ils ont recruté Renato Sanchez. Nous, on a recruté Samir Gersen. Voilà, bon, bah.
Ouais, ouais. Il s'appelle Milan Calibre. Le gars qui est Franck Sergio, incroyable Franck Sergio.
Ah non mais allez. J'arrive pas à croire qu'on ait posé 6 millions sur ce mec quand même.
Ah ouais,
on a posé bon, 6 après, millions sur Blasinho, le petit fantôme.
Blasinho sur les sous qu'on envoie sur des joueurs, on a Anthony après... Libombé qui est pas mal. Non, quand même.
Après moi là, je profite d'être avec vous pour vous poser une question justement par rapport à la direction tout ça. J'ai l'impression qu'à Nantes il y a un gros problème avec les contrats des joueurs. J'ai l'impression que tous vos bons joueurs se barrent en fin de contrat, quoi.
C'est ce qu'on appelle une gestion parfaite des contrats de joueurs. Ça, on a clairement, hein, Colomoini s'en va pour zéro. Voilà, c'est une histoire d'amour.
Après, il y a eu quelques prolongations ces derniers temps. Il y avait pour tout dire, il y avait 13 joueurs en fin de contrat cet été, et il y a eu quand même notamment Palois, Fabio.
Alors, est-ce que c'est pour vendre le club plus cher ou est-ce que c'est pour préparer la saison prochaine?
Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de théories comme quoi.
Il y a beaucoup de théories.
Parce que voilà, faut vendre le club, etc. Voilà, peut-être que tout simplement ils veulent faire peau neuve cet été. Il y a beaucoup de possibilités. Et après, Elter, on ne va pas te cacher que nous, notre direction, on la déteste à peu près autant, si ce n'est plus. Donc, après, et puis ça fait encore plus longtemps. Donc,
l'avantage que vous avez, c'est que même si votre président est vraiment. Et vraiment pas ouf. Au moins, c'est du divertissement. C'est du divertissement.
Ah, bah, lundi,
c'est
lundi,
vraiment
demain,
le roi de l'entertainment.
Jérôme Bretagne, l'émission de Jérôme Bretagne, demain 18h. Allumez vos postes de radio, enfin, même si plus grand monde n'a des postes de radio. Allez sur internet, là, tapez RMC, on va bien rigoler. Ouais. On va sortir dans la presse, il va encore sortir une dinguerie et on va finir la saison comme des ploucs. Mais voilà, il y a Valdemar Quitta chez Jérôme Sans Flamme, je crois que c'est ça l'émission. Donc,
C'est ça. Roten Sans Flamme, ouais. Valdemar Quitta, ouais.
Moi, j'avais bien aimé le moment où. J'ai revu une vidéo, c'était Der Zakarian, c'était son dernier match, je crois. Il voulait parler aux ultras.
À la sono.
Donc, la musique du stade à fond, franchement, c'est un moment légendaire.
Der Zakarian qui nous envoie en barrage dès son dernier et qui dit à Valdemar Quitta, je suis content de vous envoyer en barrage, mais pas pour le club. Je suis content pour vous, mais pas pour le club. Voilà, c'est Der Zakarian, Valdemar Quitta, c'est une grande histoire d'amour. Et pourtant, c'est celui qui est resté le plus longtemps à ses côtés, mais... Comme quoi, ça ne finit jamais bien avec ce monsieur.
Mais parce que Der Zakarian est un mec bien aussi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, voilà, ça c'est une autre affaire. En tout cas, j'espère juste un truc pour toi, Alter, c'est que parce que nous, quand on est parti en Ligue 2, Valdemar Quitta était là aussi et ça n'a pas changé grand chose alors qu'on espérait qu'il vende. On s'est dit peut-être qu'en remontant en Ligue 1, il va vendre le club, ça n'a pas été le cas. Et on l'a encore aujourd'hui. Et le petit problème qu'il y a, c'est que son fils n'a pas l'air décidé de trop lâcher le club. Donc, on risque de se le coltiner encore pendant un bon bout de temps. Donc, j'espère juste une chose pour vous, c'est que Gérard Lopez
n'a pas le même.
Il n'a pas de fils. J'aimerais bien dire, ouais, il faudrait qu'il se barre ou quoi. Mais le problème, c'est que s'il se barre, on se retrouve avec.
Le problème, c'est la gestion financière aussi. Il y a des énormes trous dans la caisse à Bordeaux.
Par contre, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait au niveau. On a. Pas la même masse salariale que ce qu'on avait l'année dernière, par contre.
Ouais, mais il a fait des prêts et tout. C'est, et le montage au niveau financier, Bordeaux peut
dépenser. Ah oui, après, je me doute que.
Il y a des grosses magouilles. Ouais.
Non, mais tu sais, dans quelques années, parce que là, tu vois, t'as encore des gens qui bossent là-bas, qui sont sous contrat ou quoi, mais quand il y a des dossiers qui vont sortir là, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu.
Il y a de la poussière sous le tapis, quoi. Le prochain qui lève qu'est-ce qu'il y a sous le tapis, là, il va découvrir. Au château du Hayan, il va découvrir d'autres trucs.
Ouais. Vous préférez que votre club soit dirigé par Quitta, Lopez ou Cayazo?
Cayazo, non.
Attends, c'est lequel qui est toujours à Dubaï ou je sais pas quoi là. Il y en a un qui est
jamais à Santé. Les deux, Romain et Cayazo. Non, franchement, à Santé, ils ont vécu quelques trucs pas mal.
Oui.
Je sais qu'à Santé, il y en a un des deux au moins qui est un petit peu concerné par le club.
Il y en a un des deux qui s'est fait allonger par Valdemar. Allonger, voilà. Je vais pas finir la phrase, mais allongé. Ouais. Mais bref. Mais franchement, à Santé, ils ont quand même vécu quelques trucs pas mal. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ils sont allés en Europa League.
Oui, ils ont vécu des bons moments.
Voilà, il n'y a pas non plus tout à. Même si aujourd'hui, c'est très compliqué. Attends, Santé, c'est autrement moins vrai que chez nous. Quitta, c'est. Tout, mais pas Quitta, s'il vous plaît.
Ouais, c'est la catastrophe, comme on a l'habitude de dire à Nantes.
Comme on a dit à la banderole.
Ouais, voilà. Il nous reste encore quelques minutes. J'avais une question à poser justement à Mathis et puis Bastien aussi, on écoutera son avis. Est-ce que finalement, parce qu'on parle de Blas, on parle de Chirivella, on parle de Colomani, de Lafont, est-ce que finalement, l'homme de la saison, c'est pas tout simplement Antoine Comboiré, Mathis?
Ah si, bien sûr que si, évidemment. D'abord parce que la réussite du FC Nantes cette saison, c'est une réussite collective. C'est aussi, on peut le dire, de la manière dont a sauvé Antoine Comboiré a sauvé le club de la descente l'année dernière, hein, parce qu'à partir du moment où il arrive, tout change. Et donc cette réussite, d'abord, elle est collective. Et quand c'est une réussite collective sur une saison aussi aboutie que celle-ci, et qu'il sera encore plus en cas de titre en Coupe de France, mais ça, bon, voilà, ça reste à définir. Mais en tout cas, sur une saison aussi aboutie que celle-ci. Quand on a une réussite collective comme c'est le cas à Nantes, c'est évident que c'est du fait du coach. Il a d'abord réussi à mettre en place un jeu assez séduisant, ou du moins, s'il n'est pas séduisant, il est au moins très efficace. Ça, c'est ce qu'on doit lui reconnaître. Et ensuite, c'est au niveau des joueurs, puisqu'il a remobilisé énormément de très, très bons joueurs. Et là, il y a plein d'exemples. Hein. Bon, un Pedro Chirivella, on ne l'avait pas vu très mauvais la saison dernière, mais en tout cas, il s'est largement révélé cette saison. On a beaucoup de joueurs. Nicolas Palois qui était plus irrégulier, plus irrégulier la saison dernière. Il réalise une saison de patron. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Un Moses Simon, un Ludovic Blas, bien sûr. Donc, la réussite de Comboiré, c'est ça. C'est au niveau collectif avoir réussi d'abord à faire une équipe qui joue ensemble et qui joue bien ensemble, qui joue de manière efficace ensemble. Et puis ensuite à remobiliser des joueurs qui ont un vrai talent, un vrai potentiel. et qui peuvent en fait faire de cette saison aussi un véritable tremplin pour eux, hein. Et le meilleur exemple, bah, c'est Randall Kolo Muani, dont on sait qu'il va partir, mais c'est un très bon exemple de tout ça. Et puis aussi, enfin, le dernier élément, c'est d'avoir tenu dans la durée, puisque là où on connaissait un FC Nantes qui avait l'habitude de se vautrer à un certain moment du printemps, là on sent que c'est quand même pas tant le cas que ça, même si on a eu une période de moins bien sur les dernières semaines. Là on a la preuve que en fait ça revient, et on va arriver vers cette finale de Coupe de France et vers cette fin de saison, parce qu'on aura aussi, il faut pas oublier, hein, des échéances après la finale avec Rennes et Saint-Etienne notamment, même s'ils vont jouer plus grand chose au classement. Donc voilà, la réussite de Compo Arrêt, c'est une équipe qui joue bien ensemble, une équipe qui dure sur le long terme, et des joueurs qui se sont vraiment remobilisés sur une saison, et c'est pour ça que on lui doit beaucoup, je pense.
Ouais. Bastien, t'es d'accord aussi avec cette analyse de Matisse?
Ouais, bah évidemment, je pense qu'on est tous d'accord sur l'excellent effet Comboiré depuis son arrivée en fin de saison dernière. Je pense que, de toute façon, on le sait tous, les joueurs du FC Nantes ont besoin d'un entraîneur de caractère, hein, qui a un certain charisme pour qu'il se fasse respecter et que les joueurs finalement le rendent sur le terrain. Je mets quand même en garde, car admettons, si on perd cette finale et que derrière on finit à la 12e place de Ligue 1, bah finalement on ne sera pas une si bonne saison que ça, même si on sera quand même allé en finale, ce qui est déjà très bien. Donc voilà, faut pas s'enflammer, j'aime pas trop m'enflammer non plus. Donc attendons quand même la fin de saison.
Ouais. Après, bon, oui, je rejoins un peu ce que tu dis. Après, ça restera une saison correcte, parce qu'on finit quand même, on va finir dans le milieu de tableau. Ça, maintenant, je pense que c'est assez clair. Je pense que à la fin de la saison dernière, je pense que si on nous dit la saison prochaine, vous allez finir 12e et
quart de finale. Les émotions. Les émotions.
On tape Paris.
Le football, c'est ça aussi. Le football, bien c'est sûr. Ça aussi. Il faut le reconnaître.
Non, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on pourra remercier les joueurs pour la saison qui nous ont fait vivre cette année par rapport à la saison dernière, quand même. On revient de très, très loin. Bravo, voilà, quoi qu'il arrive, on peut déjà féliciter et dire bravo à Antoine Camboré pour le boulot qu'il a fait. Après, c'est sûr que je crois que c'est Emmanuel Merceron qui a mis un tweet en disant il manque plus que la cerise, en fait, quoi. La cerise, c'est cette finale. Si on arrive à mettre cette cerise sur le gâteau,
je sais pas de quoi il parle. Je suis pas sûr de.
Ah oui, alors.
Je suis pas sûr. Attends, parce que pour moi, la cerise, c'est aussi le départ de Kita, qui serait quand même une très très belle cerise.
Ouais, c'est bon, on va dire que la cerise sur le gâteau, c'est la finale, et puis la chantilly, c'est le départ de Kita. Ça, on est d'accord, mais bon, déjà, si on gagne cette finale, ça sera quand même une saison de dingue, quoi. Ok, bon, ben les gars, merci pour vos avis. Déplacement à Lens. Samedi prochain. Allez, comme ça, rapidement, sans parler de pronostics, sans parler de quoi que ce soit, un rapide tour de table pour de chacun, et puis on terminera par l'avis d'Elter aussi sur le prochain match de Bordeaux. D'abord, Bastien, tiens, sur le prochain match de Nantes à Lens, très rapidement, comment tu le sens, toi?
Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être très très dur. On aura la tête à la finale, et puis voilà, un point serait un point de gagné et pas deux points de perdu. Voilà.
Ok, donc ça pour Bastien. Mathis, ton avis sur ce match contre Lens?
Oui, bah Bastien, tu as très bien résumé ça. Je pense qu'un petit 1-1 ou 0-0 ferait notre plus grand bonheur. Mais ce qu'on va surtout scruter, c'est de ne pas perdre de joueurs, et ne pas perdre de joueurs importants. Ça va être ça le principal enjeu. Bon, c'est un peu triste de dire ça comme ça, puisque moins il y a de gestion des efforts, mieux c'est. Mais en tout cas, ouais, si même si on perd, mais qu'au final, on a un effectif qui est très mobilisé et prêt à répondre présent pour la finale, ce sera le moindre mal.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Je pense que la priorité, ça reste ça, ça reste d'aller au Stade de France avec tous les joueurs, en tout cas les joueurs qui devraient débuter ce match. Blasinho, pareil, même constat.
Pareil, même avis. Et puis voilà, comme l'a dit Mathis, voilà, je préfère perdre et ne perdre aucun joueur que gagner en perdant Kolo Muani, par exemple. Voilà. L'enjeu du match est vraiment minime, et on perdra, pour moi, voilà, petite défaite 2-1, 3-1, parce que Lens a voilà, l'Europe au bout de la saison, donc il y a un enjeu qui est énorme. Dans un bol art plein, ils vont avoir à cœur de gagner face à une équipe qui n'a rien à jouer. Donc forcément, pour moi, on va perdre. Mais voilà, l'enjeu principal, c'est rester bien en forme, bonne santé, prenez soin de vous, les enfants. Voilà. Soignez bien, voilà, les petits bobos, tout ça. On vous attend le 7 mai. Voilà, elle est pour vous cette finale. Allez.
Bon, mais je vais rien rajouter parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Donc on est tous d'accord là-dessus. Elter, pour vous, c'est une réception de Nice. Ça va pas être évident, mais par contre, si vous pouvez là vous blesser quelques joueurs, nous ça
mettez
nous
l'intensité, les coups, les contacts, les contacts tout de
voilà,
suite.
Voilà, non mais vous avez envie de rester en Ligue 1, mettez des brins un peu là.
Si tu veux, on va faire jouer Niatenko et s'il fait comme il a fait pour son premier match, c'est-à-dire petit tacle, les deux pieds décollés, où il prend rouge direct au bout de 2 minutes de jeu.
Bon,
si
voilà,
voulez,
comme ça.
Si vous voulez, on fait ça sur Lemina et comme ça.
Non, mais sur, voilà, on prend, que ce soit Guiri, voilà, que ce soit Guiri, que ce soit Lemina, que ce soit Kluivert, allez-y, faites-vous plaisir.
Guiri qui va jouer contre le redoutable Kouateng, je doute qu'il fasse quelque chose pendant ce match.
C'est vrai, ça, j'ai très peu d'espoir pour toi, mais bon, on verra.
Sinon, au niveau prono, allez, on joue contre une équipe de transition en plus, on a pris 4-0 à l'aller. Wow. Ouais, on va être dans les tarifs habituels, on va dire 5-1.
5-1, ouais, ça fait mal de
non,
prévenir
vrai,
ce genre de choses.
Tu sais que c'est vraiment bizarre, mais tu vois, c'est typiquement le genre de match où on peut faire quelque chose. Tu vois, on joue contre une équipe du top 5. On est une équipe tellement bizarre que ça me surprend même pas. Tu sais, on est capable d'en prendre 6 par 1, de faire des bons matchs contre des grosses équipes. Donc, je sais pas. En fait, faut rien parier sur Bordeaux parce que cette équipe te surprend soit dans la médiocrité, soit dans le positif.
Ouais. Ah, c'est illisible. C'est illisible.
Ouais, c'est illisible. Et comme il y a une phrase de Coluche qui résume bien, je trouve, Bordeaux, c'est que comment c'était déjà? C'était pour Bordeaux, ils sont capables du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire qu'ils sont meilleurs.
C'est dans le pire qu'ils sont meilleurs. Exactement.
Ouais, là c'est vrai que c'est, alors encore une fois, c'est vraiment, voilà, je le dis pas méchamment, hein, mais c'est vrai que ça fait du mal de voir une équipe autant galérer, hein, que Bordeaux,
ah
cette
non,
saison,
mais,
cette saison là.
Franchement, pour le bien du football, on mérite la Ligue 2. Ça me fait chier, mais
ouais.
S'il y a une justice quelque part,
ouais, oui, là oui, pour le coup, s'il y a une justice, c'est vrai
quand
que
tu vois, mais, par exemple, tu vois. Au même moment, quand on s'est pris une dérouillée par vous, là, bah, y a trois qui étaient menés 2-0 face à Angers. Les mecs sont revenus à 2-2, tu vois, parce que les mecs, ils veulent s'en sortir. C'est tout. C'est ça la différence. Il n'y a pas, ouais. Y a pas à chercher plus loin.
Ouais.
Bon,
bah, écoute, ouais, Elter, merci d'être venu.
Merci à vous. C'était cool de pouvoir parler. Hein. Ça fait une petite thérapie. Hein.
Eh ben ouais, ben écoute, on est là, il n'y a pas de souci. Merci à toi et puis bon courage pour cette fin de
ouais,
saison.
Bonne
alors.
Fin de saison à vous et on espère que vous allez détruire la racaille niçoise et l'affreux 4-4-2 de Christophe Galtier.
On va tout faire pour, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Ouais. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Je rappelle aussi, comme le dit Morgan à chaque fois, bon là il a dû partir un petit peu plus tôt, mais le Space est dispo sur Twitter, bien sûr, mais aussi sur Spotify et sur l'Apple. Alors, Bastien ou Mathis, vous allez peut-être plus m'aider, mais sur Apple et sur Google, je crois, que c'est disponible aussi.
Ouais, il me semble que c'est ça, t'as bien résumé.
Voilà, donc si vous voulez réécouter le Space en entier, vous pouvez aller sur ces plateformes-là aussi. Merci à tous les quatre, les gars. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Merci.
Et puis, bonne semaine. Et puis, à samedi prochain.
Ciao, les gars.
Allez, ciao. Ciao.
C'est important.
Ouais.
Bonne semaine.
Ciao.
Salut.